Et nous allons reprendre avec un exposé de Luc de Heusch, professeur à l'Université libre de Bruxelles, un africaniste, qui très tôt a été attiré par les perspectives qu'ouvraient pour la compréhension notamment du rituel les travaux de Lévi-Strauss. Les africanistes qui ont été influencés par Lévi-Strauss ne sont pas si nombreux, il y en a, mais ils ne sont pas si nombreux. Et Luc de Heusch est un de ceux qui, comme je l'ai dit très tôt, ont compris la pertinence de l'œuvre de Lévi-Strauss pour l'intelligibilité des questions qui se posaient sur le matériel africain. Luc de Heusch, c'est à vous.
Merci.
C'est à toi.
Après mon retour d'Afrique en Belgique, en 1955, je lus plus attentivement les structures élémentaires de la parenté, ce copieux ouvrage trop souvent négligé. Mais alors, négligé par tout le monde. Rappelons que Lévi-Strauss a insisté sur le fait que, à cause de l'échange matrimonial, l'oncle maternel, receveur de femme, existe toujours à la base de tout système de parenté. Cette base, il l'appelle l'atome de parenté, dès avant les structures élémentaires de la parenté. Les tétéla Hamba, chez qui j'avais passé 2 ans, forment une société lignagère, segmentaire, dépourvue d'autorité centrale, dont les diverses tribus indépendantes qui composent une ethnie, j'ose encore formuler ce mot, oni par mes jeunes collègues, j'ose encore utiliser ce mot, se prétendent ici issus du même ancêtre commun. À la lueur des structures élémentaires de la parenté, je crus pouvoir interpréter le système des tétéla Hamba, que l'on rencontre aussi sous une forme ou l'autre dans l'ensemble des populations dites Mongo, parlant une langue apparentée dans la grande forêt dans l'ex-Congo belge. Ils ont choisi le régime patrilinéaire avec le prix d'achat. C'est un mot détestable, mais il n'y en a pas d'autre. Le prix d'achat de la fiancée, assorti du privilège du neveu utérin. J'appartenais donc à la jeune génération qui, s'appuyant sur le chef-d'œuvre de Lévi-Strauss, espérait renouveler le débat dormant sur l'un des objets privilégiés de l'anthropologie classique, la parenté. La supériorité du neveu et son droit à une partie de l'héritage de l'oncle maternel sont conçus par les tétéla Hamba comme un retour visant la mère donnée en échange de la sœur du père. La mère donnée en échange de la sœur du père. Le neveu se présente chez son oncle maternel comme l'héritier d'une partie de la somme payée par son père pour pouvoir épouser sa mère. Il peut lui voler impunément une chèvre. L'oncle défunt, il exige une part de l'héritage. Et même une veuve laissée par lui. Nous sommes en régime patrilinéaire, souvenez-vous. J'étais donc tenté de voir dans ce retour symbolique de la mère comme une évocation des fondements de la prohibition universelle de l'inceste. Nous assistons dès lors à un cru renversement de la circulation des biens matrimoniaux, une ébauche ou un avortement ou une nostalgie de l'échange restreint. Du point de vue féminin, la sœur donnée est supérieure à l'épouse reçue, disent les tétéla Hamba. Cette situation est paradoxale. Lorsque le neveu utérin reçoit la fille de l'oncle maternel, s'ouvre l'horizon de ce que Lévi-Strauss appelle l'échange généralisé. Ce n'est pas le cas des tétéla Hamba. Il mérite d'être considéré dans la perspective adoptée par Lévi-Strauss comme un système complexe ou semi-complexe, selon Françoise Héritier, de l'échange généralisé. Il se définit en effet par l'interdiction d'épouser toute femme avec laquelle on peut établir un lien de parenté, et il est réglé positivement sur le prix de la fiancée prise dans n'importe quel lignage patrilinéaire. Et voilà que le seul mariage recommandé, celui avec la veuve de l'oncle maternel, introduit dans le système l'ombre oblique de l'échange restreint, différé, d'une génération à l'autre. Ce mariage secondaire annule au moins en partie la dette du père vis-à-vis des proches de sa femme. La dette du père s'entend pour le prix payé pour obtenir une femme. Cependant, cette femme est jugée supérieure à la sœur, à l'épouse. Elle devient la mère du fils. La sœur est jugée supérieure à l'épouse et elle devient la mère du fils. Et c'est ici que tout se noue. Ce retour de la mère, exigé par le neveu utérin, est décidément inattendu. Comme si la dette du père, résultant du mariage avec la mère, était en partie remboursée au fils, qui appartient au même lignage que le père. Karl Etetela Ramba professe que la dette matrimoniale ne cesse pas du vivant de l'époux. Tout homme doit honorer le père ou les frères aînés de sa femme par des dons plus ou moins importants, plus importants en tout cas que les contre-dons qu'il recevra de ses alliés. Le système Tetela Ramba est exactement le même chez les Tonga d'Afrique du Sud, admirablement décrit par Junot. Il a fait couler beaucoup d'encre. Et Lévi-Strauss, j'en parlerai à l'instant, nous en a entretenu. Nous trouvons chez les Tonga patrilinéaires la même supériorité du neveu. Son privilège est même amplifié ici, puisque le neveu, voleur de chèvres et sacrificateur de l'oncle maternel, bien qu'étranger à son lignage patrilinéaire, peut même lui adresser la parole de manière offensante. Qu'en mourras-tu afin que je puisse épouser ta femme ? Le prix de la fiancée, fixé à une vingtaine de bœufs, est appelé ici l'obola. Mais il est conçu de la même façon que chez les Tetela Ramba, avec les bœufs donnés à un allié. Le père cherchera une épouse, la mère éventuelle d'égo, le neveu utérin. Bien entendu, tout cela est officiellement affaibli par la coutume qui proclame haut et fort que l'affection doit exister entre les deux hommes, l'oncle et le neveu. Le privilège du neveu est peut-être une plaisanterie, mais elle est saumâtre. Égo masculin se comporte d'une extravagante façon chez son oncle maternel. Emprunter le statut de la mère dans cet échange de femmes, en Charles-Henri Pradel de la Tour n'est pas loin de la solution. Il en souligne l'ambiguïté. En régime patrilinéaire, en effet, la mère est à la fois l'alliée et la consanguine de son fils. Mais cette ambiguïté n'explique pas tout en termes d'échange. Lévi-Strauss s'est intéressé au Tonga pour approfondir l'identité substantielle de la femme avec les bœufs provenant du mariage de la sœur. Il analyse le statut de jumelle que Junot accorde aux deux femmes échangées par le truchement du lobola. Il s'efforce de comprendre cette identification et même cette identité très forte. Elle fait que la femme acquise avec les bœufs du frère est interdite au plus haut point pour lui pour le frère, comme sa sœur. Lévi-Strauss a raison d'écrire que cette interdiction garantit l'existence d'un cycle d'alliance long par l'intermédiaire de l'alliance de la chaîne complexe du Lobelin. Le fils de cette union interdite au père réclame en fait sa propre mère dans un échange restreint en la personne de celle qui est devenue pour lui la femme de l'oncle maternel. L'autre formulation pour expliquer le privilège du neveu utérin, exorbitant ou mesuré, en Afrique, dans tant de peuples patrilinéaires, réside dans la formule suivante. Si ma sœur avait été un homme, son fils serait un membre à part entière de mon lignage. Cet argument a été repris par de nombreux auteurs, mais pas par les Tetela, ou les Tonga. On peut lui reprocher qu'il fait la part trop belle à la filiation et qu'il n'explique pas le trouble jeté dans la société. Alors que, fidèle sans le savoir, à Claude Lévi-Strauss, les Tetela, Hamba, préfèrent soutenir le point de vue de l'alliance. Ajoutons du point de vue psychanalytique, qui est évoqué par quelqu'un tout à l'heure, que l'enjeu majeur de cet échange est le retour symbolique de la mère. Cette idéologie est peut-être significative d'une donnée psychologique étrangère à l'échange, tout en participant au retour de l'échange restreint. Je n'ignore pas que la théorie du mariage comme échange de femmes a été contestée par certains, mais je m'y rallie. Sans doute, il existe des exceptions qui toutes méritent une explication. Un réexamen critique de la question a été entreprise en l'an 2000 par la revue L'Homme. Pierre Bonte estime qu'à l'épreuve de données nouvelles, les structures élémentaires conservent, je le cite, une grande partie de sa valeur heuristique et contribue à inspirer la réflexion théorique dans le domaine de l'étude anthropologique de la parenté. Pierre Bonte, vous le savez, est le spécialiste du mariage arabe. Il explique ce mariage de type endogamique, non par le partage, par la logique de l'échange, mais par celle du partage des femmes. Les autres articles portent généralement sur un problème précis. C'est ainsi que Chantal Collard examine du point de vue des femmes les Ha de Chine et les Minangkabau d'Indonésie. Françoise Héritier réplique et ouvre les débats que vous prolongerez sans doute. Les Tetela Hamba n'ont pas de mythe explicite. Plus généralement, les Africains ont peu de mythes comparés aux Amérindiens, mais ils possèdent une foule de rites les plus divers, éclairés ou non par des commentaires. Intrigué par la démarche mise en œuvre par Lévi-Strauss, dès le premier volume de la série impressionnante des mythologiques, je me mis à interroger l'Afrique. C'était l'époque où mon collègue et compatriote Jan van Zina participait à la naissance de l'ethno-histoire, proclamant que la tradition orale est bonne à se souvenir, alors que Lévi-Strauss estimait qu'elle est surtout bonne à penser. Je ne tardais pas à découvrir que la mythologie explicite se réfugie très souvent en Afrique dans l'histoire, et plus particulièrement dans la région obscure et pleine de prouesses merveilleuses qui entoure l'origine de la royauté, institution que les Amérindiens actuels ignorent complètement. Je fus frappé par la notion de système de transformation ou groupe de transformation proposé par Lévi-Strauss et je vis qu'elle s'appliquait aux croyances du Rwanda. Je suis donc partisan de la thèse diffusionniste. Mais en tant que structuraliste, elle se reliait historiquement à celle du sud de l'Ouganda, région voisine du Rwanda. Ryangombe, là, à l'Ouganda, se trouve l'origine lointaine du culte rwandais de Ryangombe. Ryangombe était l'un des obscurs compagnons de chasse de Wamara, le dernier roi, peut-être mythique, qui avait régné sur les royaumes du sud de l'Ouganda avant l'arrivée des Nilotiques. Il avait disparu avec son peuple mystérieusement en Tanzanie. Un mythe rwandais raconte cependant que le héros Ryangombe, devenu le roi des Imandwa, sa créature fantomatique qui prennent possession de l'initié, c'est-à-dire du monarque dans le culte de possession, se montra plus puissant en matière de magie que le roi du pays auquel le roi ne participait pas. Mais très populaire, en revanche. J'ai alors scruté dans l'espace, en Tanzanie, les étapes de la transformation progressive de Wamara en Ryangombe. Je ne suis pas à pas cette transformation historique. C'est dans cette région, en Tanzanie, que Wamara et les siens étaient censés avoir disparu sous terre. En suivant la méthode préconisée par Lévi-Strauss, j'avais exhumé la vieille notion d'ère culturelle chère aux ethnologues culturalistes américains. Je découvris plus tard que toute la pseudo-histoire élaborée à la cour du Rwanda par des courtisans de haut rang était en fait un ensemble mythologique. J'ai publié un livre qui analysait en termes mythiques le passé du Rwanda, Rwanda d'un cœur de vache, et provoquait la colère soudaine de Jan van Zina, que j'interrogeais. À vrai dire, sa critique s'en prenait autant à moi qu'à Lévi-Strauss. Dans ce deuxième volume des mythes et rites bantous, Rouen et d'un corps de vache, je me rapprochais aussi de Dumézil, en mettant en jeu des fonctions assumées par les rois les plus importants du Rwanda. Bien que ces fonctions n'aient rien à voir avec la tripartition mise en lumière par Dumézil dans le milieu indo-européen. Ensuite, je m'écartais de l'ère culturelle. J'étendis mes interrogations à l'ensemble de l'Afrique noire, mes interrogations sur le contenu des mythes et rites concernant la royauté sacrée, phénomène récurrent en Afrique. J'étais conscient de sa diversité, de l'origine historique différente de cette institution débusquée pour la première fois en Afrique par James Fraser. Mais il avait assigné à tort une position historique conforme à la conception évolutionniste unilinéaire du début du XXe siècle. J'étais bien conscient aussi de la diversité de sa structure socio-économique, mais je recherchais plus spécifiquement les invariants de sa structure symbolique. L'inceste royal me mit sur la piste de ses invariants, dans son souci d'arracher la société à la parenté, dans le souci aussi de centraliser le pouvoir. Je fus intrigué, comme Alfred Adler, par le fait que tant de mythes africains mettent en scène le statut pacifique non guerrier du chasseur fondateur de la royauté ou de la chefferie sacrée. Je fus frappé d'entendre dire par Tshibinda Ilunga, le fondateur chasseur de la royauté Lunda au Congo belge, « Je verse le sang des bêtes, non le sang des hommes. » D'un examen d'autres mythes de fondation, je conclus que la fonction de prospérité et de fécondité doit être distinguée de la fonction guerrière destructrice. Même si, dans le cas où la conquête s'est effectué dans le fracas des armes. Même si le roi bénéficie de la guerre, même s'il renforce son pouvoir en l'enrichissant, laissant plus ou moins de pouvoir aux clans réputés autochtones. Le héros mythique chasseur, dans Main Ka, reçoit la charge loyauté dans un échange symbolique, et non par la violence. Il fournit abondamment de la viande, métaphore de la richesse, et reçoit une ou deux filles du groupe qui font de ses, descendants des autochtones. Son fils est le héros guerrier, fondateur de l'État, comme tel. Mais chez les Lubas, mais au Rwanda, le roi guerrier, fondateur de l'État, après l'irruption, plusieurs générations après l'irruption pacifique du héros chasseur, Gianga, l'annonciateur de cette unité. Voici que surgit le héros Ruganzu Ndori, le roi guerrier, qui fonde véritablement l'État par l'exercice de la guerre. Vantina explique ça au XVIIe siècle, je lui donne raison. Je cherchais dans certaines sociétés africaines lignagères, ignorant la centralisation du pouvoir, l'embryon de la structure symbolique de la royauté sacrée, et j'en conclus que l'origine de celle-ci doit être distinguée de l'État qui simplement la renforce. Bien des mythes africains font des descendants du héros chasseur, principe de prospérité et de fécondité, un jumeau, un forgeron, ou un être incestueux, sorcier maléfique aussi bien que magicien bénéfique. Dans tous les cas, le roi sacré, placé au centre même de la royauté, de la société, est un excentrique. C'est qu'il était un être ambivalent. Sa position topologique, sa position dans l'espace symbolique doit être prise en considération. Placé au centre même du pouvoir, il lui est aussi extérieur. Le roi est toujours, ou presque toujours, un étranger, venu d'ailleurs, capable de dominer la nature et pas seulement la société qu'il adopte ou qu'il a servi. Lévi-Strauss, à qui nous rendons hommage ce jour, s'est peu intéressé aux variations du pouvoir, sans les ignorer, au sein des structures de parenté. Il a pris soin d'éviter, pour diverses raisons, l'empire Inca, comme l'empire aztèque, que la colonisation a détruite et qui ne sont plus accessibles que dans les écrits laissés par les colonisateurs ou les images et les ruines laissées par les autochtones. Nathan Vachtel s'est penché sur la mémoire des vaincus. Lévi-Strauss, quant à lui, est l'auteur d'une métaphore thermodynamique opposant les sociétés froides, les sociétés sans écriture et les sociétés chaudes, dont le devenir est épaulé par l'écriture. Deux rythmes historiques, deux pôles de recherche. Il est temps d'abolir les frontières académiques entre l'anthropologie et l'histoire. Barrière ridicule, puisque toutes les autres, toutes deux, ont pour fonction d'étudier les sociétés du passé, dans les temps ou dans l'espace. Lévi-Strauss, donc, s'est opposé, est l'auteur d'une métaphore thermodynamique opposant les sociétés froides et les sociétés chaudes. Entre ces deux états de chaleur, les États ou les proto-États africains me paraissent participer de l'histoire tiède. L'on verrait mieux alors que les sociétés dites historiques, objets de l'histoire chaude proprement dite, transforment cette royauté magico-religieuse en royauté divine proprement dite et ce qualificatif ne s'adapte pas, volontiers pour les hommes, pour les sociétés africaines. Un homme se prend pour un dieu, ou est le prêtre d'un dieu unique dans la société occidentale. Ce personnage central abolit dans l'impérialisme la barrière qui existe entre la prospérité de la paix et la guerre. Le roi égyptien, guerrier triomphant sur son char et menaçant toutes les nations ennemies, en est l'exemple typique. L'écriture aussi. Les royaumes africains traditionnels, s'ils n'ont pas inventé la fragile démocratie, ont du moins le mérite de nous enseigner qu'il n'y a pas de prospérité sans paix et que tout pouvoir est suspect. Sa magie ayant une fâcheuse tendance à devenir une espèce particulière de sorcellerie dans l'ombre du palais, fût-il de roseau ou de pierre. Merci de votre attention.